Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, alors est-ce que l'équipe de Cinérama a vu un bon film aujourd'hui ? Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Il semblerait que ce soit le cas.
C'est le cas, oui, avec le nouveau Guillermo del Toro, La forme de l'eau, et puis le nouveau aussi Paul Thomas Anderson, The Phantom Thread.
Alors toi, tu as vu des grosses machines hein, quand même. Moi, j'ai vu des toutes petites machines, notamment un film iranien, Quatre consciences, de Vahid Jalilvand. Et puis aussi, alors, un film merveilleux, moitié danois, moitié islandais, de Limur Palmason, qui s'appelle Winter Brothers. Et je vous en parlerai. Et puis, au milieu de cette émission, on aura l'interview de Gilles Perret, réalisateur de L'Insoumis, documentaire qui fait parler de lui, documentaire sur Jean-Luc Mélenchon, au moment où il aurait pu peut-être accéder au pouvoir. On en parlera donc dans cette émission avec une interview, puisque Marine l'a rencontré. C'est Cinérama qui débute avec Guillermo del Toro.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Si je vous parlais d'elle, la princesse sans voix, que vous dirais-je ?
Alors, auréolé du Lion d'Or à Venise, la forme de l'eau débarque enfin sur nos écrans, suscitant une crainte légitime, surtout de la part des fans de Guillermo del Toro. Alors, se serait-il assagi, coulé dans le moule pour livrer une œuvre respectable et consensuelle, véritable bête, et c'est un peu le cas de le dire vu le sujet de festival. Alors, on est tout de suite rassuré et saisi par une ouverture splendide et très osée en regard de la pudibonderie du cinéma de genre contemporain. Elisa, l'héroïne, muette et non sourde, se déshabille dans son simple appareil, la nudité coule de source, sans souci de provocation. Elisa se plonge dans son bain et se masturbe. Elle jouit rapidement lors d'un plan fugace de toute beauté. Alors le ton est donné en exhibant le corps et les désirs d'Elisa. Guillermo del Toro tourne le dos là à l'imagerie asexuée du cinéma hollywoodien dès qu'il s'agit de raconter une rencontre un peu extraordinaire de deux êtres marqués par leurs différences. Il s'éloigne d'une certaine féerie chère à Spielberg ou même Tim Burton qui peuvent traiter des mêmes sujets avec une intelligence et un tact qui forcent le respect. Alors d'emblée, Elisa nous apparaît humaine, proche de nous, avec ses frustrations et ses fantasmes. Employée modeste d'un laboratoire gouvernemental, sa vie va basculer lorsqu'elle découvre une créature aquatique, sujet d'expérience top secret. Alors rapidement, elle devient la seule personne par sa déficience à pouvoir communiquer avec la bête et va littéralement tomber amoureuse comme dans une rom-com classique. Mais elle n'est pas seulement attirée par le charme de ce monstre évoquant bien sûr la créature du film de Jack Arnold dans L'étrange créature du lac noir, mais de tout son univers aquatique comme si elle était aspirée par l'eau, élément érotisé dès la séquence d'ouverture.
Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai ? Mais le Seigneur nous a créé à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça ?
Cette créature est intelligente, capable de langage, de capter des émotions.
Quand il me regarde, il ignore en quoi je suis incomplète. Il me voit tel que je suis.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour.
Si je vous parlais d'elle, que vous dirais-je ? Je me le demande.
Alors, au-delà de l'aspect rom-com, del Toro, il n'oublie pas aussi de tisser un récit à suspense, avec bien sûr un personnage maléfique maltraitant la créature. Alors, devant les tortures infligées, Elisa n'a qu'une idée en tête, délivrer l'être dont elle s'est amourachée et la remettre en liberté. Alors, s'il ne délivre pas son meilleur film, on peut lui préférer bien sûr L'Échine du Diable ou le récent Crimson Peak, Guillermo del Toro signe néanmoins son œuvre la plus personnelle, qui brasse toutes ses obsessions et thématiques d'une manière très littérale. Alors, il réaffirme avec une candeur incroyable son amour pour les laissés pour compte, les marginaux, les êtres différents, rappelant que lui-même a été victime dans son enfance de moqueries liées à son obésité. Il le rappelle souvent dans des interviews, enfin, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Alors ces héros de l'ombre sont là-dedans un vieil artiste homosexuel, une femme black rondouillarde, un scientifique un peu étrange, ne pouvant laisser sa créature se faire tuer, et il oppose frontalement ces personnages en marge au capitalisme sauvage symbolisé par le chef de la sécurité, incarnation un peu outrée d'une réussite qui n'en est pas vraiment une. Au volant de sa voiture rutilante, il rentre dans son cocon familial auprès de ses gosses et sa femme soumise. Alors mais il ne supporte pas l'altérité, ce qui n'est pas normal, dérange, comme si la créature pouvait d'un coup détruire l'apparent bonheur dans lequel il vit. Alors, sa seule alternative est donc de lui faire subir les pires sévices corporels. Alors, Del Toro est un naïf, hein, il ne s'en cache pas, hein, mais sa naïveté passe par un film qui mêle merveilleux et esprit irrévérencieux jusqu'à la transgression. Alors, comme au début, il n'élude pas l'aspect charnel de son histoire et l'amour physique qui va unir la jeune femme muette avec la bête aquatique. Alors, conte pour adultes, à la fois poétique, social et politique, La forme de l'eau est aussi magnifiée par l'élégance de la mise en scène. Alors, en outre la photographie magnifique de Dan Lawson, on est aussi saisi par la précision du montage et des mouvements de caméra et la beauté des effets spéciaux n'abusant jamais du vernis numérique. Del Toro sait que pour humaniser un monstre, il faut en rester au plus près du naturel. Donc il a grimé un vrai acteur, un peu comme, comme dans le film de Jacques Arnold en fait, hein, avec seulement quand même quelques retouches numériques. Et l'effet est assez beau. L'émotion est atteinte lors d'un final bouleversant, pas si mièvre qu'il ne semble l'être. Seul reproche, bon, c'est la musique d'Alexandre Desplat qui est un peu dégoulinante de sensiblerie, enfin, qui surligne inutilement une romance insolite et émouvante. Enfin, à mon avis, il n'y avait pas besoin de cette musique. Hein. Alors sinon, Sally Hawkins, hein, actrice anglaise vue chez Mike Lee, est juste éblouissante dans le rôle d'Elisa. Hein. Son jeu tout en retenue et son physique particulier doivent beaucoup à la réussite de ce très beau film fantastique, comme savaient en faire des cinéastes de l'âge d'or du fantastique, hein, on va dire des années 30 de la Universal aux années 50. Voilà, un très très beau film.
Et qui concourt, qui est largement nominé aux Oscars.
Largement nominé aux Oscars, puis bon, le Lion d'or à Venise, je pense qu'il a fait beaucoup pour la réputation avant même qu'il sorte en France. Hein.
Il est dans les salles à partir ou depuis le 21 février. Donc c'était A Shape of Water de Guillermo del Toro, présent aussi à Venise. Eh bien le film dont je vais vous parler, mais pour un budget qui est sans doute 20 fois, 30 fois, 40 fois,
40 fois
moins
oui.
supérieur à tout cela, c'est 4 consciences.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Voilà encore un film iranien qui a pu se frayer un chemin vers nos salles. Après l'excellent Un homme intègre de Mohammad Razoulov, sorti en décembre dernier, qui reste pour moi un des meilleurs films de 2017. Difficile de faire mieux sûrement, hein, mais il s'agit là encore, avec 4 consciences, d'ausculter la société iranienne. Alors si dans Un homme intègre, le réalisateur se demandait s'il était possible d'être une oie blanche hein, dans une société corrompue, ici le réalisateur Vahid Jalilvand questionne la culpabilité qui frappe la classe bourgeoise compte tenu de l'inégalité eh bien, de la société iranienne. Alors c'est la nuit, hein, dans ce qu'on imagine être la périphérie d'une ville iranienne. Au volant de sa voiture, le docteur Nariman est tassé par un chauffard et heurte une famille de 4 personnes circulant sur une moto. Voulant éviter que les flics ne débarquent à cause d'un malheureux défaut d'assurance, eh bien, le médecin dédommage la famille pour les dégâts matériels et insiste pour qu'Amir, leur enfant de 8 ans, légèrement blessé, soit conduit à l'hôpital. Il l'a examiné, il est médecin après tout, hein, il l'a examiné sommairement et estime qu'il n'y a rien de grave. Mais sait-on jamais. En revanche, 2 jours plus tard, à l'institut médico-légal où il travaille, eh bien, il revoit la famille qui vient reconnaître le corps du jeune Amir. Donc, que s'est-il passé? Si le rapport d'autopsie qu'il n'aura pas pratiqué eh bien, conclut à une intoxication alimentaire, le médecin, lui, préfère ne pas s'en tenir là et se demande si ce n'est pas lui, hein, en renversant le petit, qui aurait causé sa mort. En nous plongeant dans ce drame d'une famille endeuillée et d'un médecin tiraillé par la culpabilité, eh bien, le réalisateur iranien tisse un thriller distancié où les non-dits prennent le dessus avant que tout n'éclate. Ainsi, derrière cette intoxication alimentaire, eh bien, se dévoile le sort d'une grande partie de la population iranienne démunie, qui ne ne sait pas finalement eh bien, comment manger correctement. Derrière cette obstination du médecin à démêler sa responsabilité se cache la culpabilité d'une classe bourgeoise qui peut jouir d'un mode de vie confortable dans une société iranienne inégalitaire. Alors il n'est pas seulement question des pauvres et des riches, hein, mais également des hommes et des femmes qui ont le beau rôle face à 2 hommes qui doivent examiner leur conscience et chercher du courage. Construisant un scénario pointu, le réalisateur tente de concilier raison et courage. Alors on se demandera, avec les personnes personnage, eh bien, pourquoi les parents n'ont pas emmené leur petit garçon à l'hôpital. On se demandera également eh bien, pourquoi le médecin attendra autant de temps avant de chercher les causes exactes de la mort de cet enfant. Au terme de son film, le réalisateur iranien aboutit finalement à une morale du courage pour mener son propos. Vahid Jalilvand déploie une mise en scène sans doute alors un peu aride, usant d'une lumière atténuée et de peu de mouvements de caméra, mais qui laisse toute la place à ce que vivent les personnages. La scène la plus forte se déroule dans un abattoir. Elle tient sa force de sa durée, du jeu des personnages et de l'intensité dramatique qui l'irradie. Alors, passer cette scène, peut-être qu'on se met à attendre beaucoup plus hein, de ce film, qui, s'il est maîtrisé, manque peut-être de relief. Toutefois, le scénario au cordeau de quatre consciences, le jeu des acteurs, la crédibilité des scènes, apporte encore la preuve de la qualité du cinéma iranien, qui s'empare de thèmes universaux sans pour autant eh bien, délaisser une critique forcément voilée hein, de la société iranienne. Je dis forcément voilée parce que c'est pas pour faire un jeu de mots, mais c'est pour dire que certains réalisateurs sont susceptibles d'aller en prison. Alors ainsi, si le film est travaillé par le drame social, il l'est aussi par le sort des femmes dans ce pays, sans que le réalisateur ait besoin de s'apesantir. Quatre consciences, réalisé par Vahid Jalilvand, c'est en salle depuis le 21 février. Il a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pendant le Festival de Venise dans la section Horizonti. Et effectivement, l'acteur livre une prestation remarquable. Enfin, un des acteurs, puisque c'est presque un duo d'acteurs. Quatre consciences, donc, je vous invite à aller le voir, tout comme le film L'Insoumis, ou plutôt le documentaire L'Insoumis de Gilles Perret, qui est le portrait d'un Jean-Luc Mélenchon forcément en forme, un Jean-Luc Mélenchon qui était dans la course à la présidentielle. On va maintenant écouter Gilles Perret, le réalisateur, qui va s'expliquer sur pourquoi il a décidé de suivre Jean-Luc Mélenchon et ses marines qui a pu le rencontrer.
C'est un état d'esprit.
Cinérama, chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Gilles Perret, documentariste engagé à qui l'on doit Mémoire d'ouvrier, La sociale ou encore Les jours heureux, s'intéresse cette fois au personnage de Jean-Luc Mélenchon qu'il a filmé pendant les trois derniers mois de sa campagne présidentielle jusqu'à son éviction au premier tour. Son objectif était de le suivre partout, de le laisser s'exprimer sans forcément intervenir, rendre compte de sa campagne d'une façon à la fois intimiste et distanciée. Nous voyons donc le candidat manger, discourir, douter, prendre le train beaucoup, haranguer la foule et s'entretenir avec ses collaborateurs. Rien, en revanche, sur sa vie privée, le réalisateur se tiendra toujours à la juste distance. Sa force, c'est d'avoir en face de lui un véritable personnage de cinéma, puisque Jean-Luc Mélenchon semble être dans la vie comme sur les plateaux de télévision, tour à tour truculent, lyrique, attachant et parfois un peu irritable. Gilles Perret filme simplement le politicien, seul avec lui et un dispositif ultra réduit, ce qui ne donne pas un très grand cachet visuel au film, qui n'échappe pas au décadrage et à quelques images un peu floues, mais l'on prête bien plus attention au dialogue, ou plutôt au monologue de Mélenchon, qui peut à lui tout seul occuper les 1h30 du documentaire. Le point faible en revanche du film, c'est sans doute de ne donner la parole qu'à lui. Jean-Luc Mélenchon est le seul à parler face caméra, on entend de temps à autre son équipe de campagne intervenir, mais il demeure le personnage solaire et omnipotent de ce film qui semble quand même très partisan. On écoute Gilles Perret nous parler de son documentaire « L'Insoumis ».
À Lyon, à Paris.
C'est mon plus gros problème depuis qu'on a fait ce film, c'est d'arriver à parler d'un film et pas de parler du personnage du film. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre le personnage et le film.
Les choses se passent pas comme prévu, parce que je ne peux pas les raconter. J'avais prévu que Sarkozy, Juppé, serait dégagé, puis après Hollande s'en irait tout seul, puis que Valls se prendrait une tôle pareille.
Je veux dire, toutes les révolutions commencent comme ça. Et la révolution citoyenne, c'est pareil que là. Ça commence par un moment où l'ancien système n'a plus pied en lui-même.
Il est parti candidat, moi j'étais parti sur la sociale pendant une longue tournée d'avant-première, et donc du coup j'étais à la bourre et je voyais que la campagne avançait, on s'est vu seulement en janvier l'année dernière, enfin il y a un an et un mois, dans un bistrot vers chez lui, et on a finalisé, et puis que je lui ai expliqué que moi je voulais quelque chose d'assez contraignant, c'est-à-dire être vraiment avec lui dans la proximité, vraiment être avec lui dans l'intimité de la campagne, et pas m'arrêter aux portes comme les journalistes allaient être retenus. Et donc du coup il a accepté, vraiment à la confiance, tout à la confiance. C'est quelqu'un qui fonctionne de toute façon tout à l'affect, et ce qui explique aussi son comportement et sa façon d'être très très souvent, et ce qui fait qu'une fois qu'il a dit oui, une fois qu'on est passé derrière les barrières qu'il met autour de lui pour se protéger, et ben c'est, j'ai pu faire tout ce que j'ai voulu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a quelqu'un qui m'a dit « tu filmes pas ci, tu filmes pas ça », qui est venu jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il apprend les résultats dans la chambre, jusque même pendant le montage du film. Le film, il l'a vu, le film était terminé, et c'était pas question de dire quoi que ce soit sur le film, quoi.
Je fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire. D'accord ? Je fais pas semblant. Alors des fois, je fais semblant de parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a de la violence en moi ? Mais oui, mais vous la trouvez...
Mais ça vous perdra, c'est ça ?
T'as vu ça ? T'as vu ? C'est dégueulasse, c'est ça. Allez, on s'en va. Au revoir.
Toujours, ça se trouve, ce type est au pouvoir et vous êtes au courant de rien ?
Bah, je pense que contrairement à mes films précédents, ce film-là est moins politique que mes films précédents. Et c'est pas du tout ce qu'on entend et ce qui se raconte sur le film, hein. Mais parce que c'est, encore une fois, c'est une question de personnage qui est très clivant et qu'on aime, qu'on déteste, peu importe. Mais en tout cas, à partir du moment où on fait un film sur Mélenchon, forcément ce serait soit une hagiographie, soit un truc, alors que je pense que non, ce film-là est moins politique et beaucoup plus humain. On est beaucoup plus sur la personne, comment lui vit ses événements à titre d'être humain, ses ressentis, ses sensations. Il y a du rire, il y a de la colère, il y a de l'émotion, il y a de la tristesse, enfin il y a tout, quoi. Le fait d'être proche de lui comme ça, on est effectivement beaucoup plus dans l'humain que dans le concept politique. Le but du jeu, c'était d'en faire un film, mais de pas faire non plus soit un meeting, soit des tirades politiques qu'on finisse plus. On a dosé ça pour que la politique soit présente, mais que ce soit effectivement l'humain qui soit... L'humain d'abord, il disait.
Tu aurais imaginé, il y a encore 2-3 mois, des gens en train de crier, on va gagner dans un meeting que j'animais.
4, 3, 2.
J'aurais pu te bordéliser ton plateau.
Mais faut pas vous tutoyer, monsieur Mélenchon.
La volonté, c'était vraiment d'être le plus fidèle possible à ce qu'on allait vivre en tant que deux êtres humains côte à côte, et moi qui regarde un peu ce qui se passe, et que du coup le spectateur se mette à ma place, mais sans intervenir. Il y a des gens qui regardent ce film-là et qui disent « il est vraiment con, c'est pas possible », et d'autres qui disent « il est vraiment super, c'est génial », parce qu'en fait il y a des traits de caractère chez lui qui peuvent être très attachants pour les personnes, et puis d'autres qui vont dire c'est insupportable. Donc du coup chacun se fait son opinion avec ce film là l'histoire de la distance critique et tout, c'est pas mon problème. J'ai pas de carte de presse, je m'en fous. Je fais des films à caractère humain, et puis les gens ils prennent ce qu'ils veulent, et le recul je le prends, parce qu'effectivement je prends souvent un contre-champ de ce qui se passe par rapport avec la presse et tout ça, et puis aussi le recul on le prend au montage, c'est-à-dire de se dire, ben justement, quand est-ce qu'on arrête le discours politique, et puis surtout au montage, de ne pas s'interdire de montrer des séquences où il n'est pas mis en valeur, et avec toujours l'envie de jamais prendre le spectateur pour un idiot, c'est-à-dire que ce que je vous ai raconté sur mon rapport avec lui, je le dis dès le début du film, c'est-à-dire pas laisser croire au spectateur que que je suis un mec comme ça par hasard, qui a dit, ben tiens, si je faisais un film sur Mélenchon, puis que lui, qu'on est quand même plutôt méfiant sur les médias, il me dit... Ah bah tiens, cool, ouais, viens avec moi, j'ouvre largement mes portes. Non, c'est pas ça. Je dis dès le début, on se connaît, c'est pour ça que t'as accepté, tu filmes bien. Comme ça, le spectateur, il fait ce qu'il veut avec ça, mais il sait d'où je parle.
Donc là, les courbes se sont croisées avec Hamon, et maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est Monsieur Fillon. C'est plus compliqué. Si on le rattrape, ça change tout.
Il y a la chronique de campagne, donc du coup, ça facilite le montage. Et puis, moi, comme je vous disais au début, moi, j'aime bien m'intéresser à des moments qui sont humainement intéressants, forts, pour voir un peu qui il est. Et donc, du coup, je savais qu'il y avait des séquences fortes, ce moment à France 5, par exemple. Le moment avec le de cœur qui échange son casque, les moments de rigolade quand il choisit sa veste, enfin, et donc du coup on construit plus le film avec ces moments où on est plus dans les affects, et puis après des moments où justement les moments plus intemporels dans le train où lui a plus le temps de s'exprimer en tant qu'homme et comment il vit les choses, et puis du coup on resserre pour arriver à faire un film qui dure 1h35. Pendant les 1h35, on s'ennuie pas trop, quoi.
La République inachevée tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout.
Les retours des salles, d'ailleurs, et les critiques presse pour l'instant sont bonnes. Et les sorties de salles, y compris des gens qui n'ont pas voté pour lui, il y en a qui le détestent, qui viennent voir ce film, parce que aussi ce film, il raconte pas que Jean-Luc Mélenchon, il raconte aussi cette campagne. La toile de fond, c'est quand même cette campagne un peu folle, avec tous ces rebondissements, et puis aussi sa campagne à lui, avec ces mouvements qui sont les jeunes qui se sont mis dans dans cette campagne, et on sent grossir tout ça. Donc, et puis ça raconte aussi par rapport au, justement au traitement médiatique et aussi comment on fabrique le pouvoir de l'intérieur, comment on le vit et comment on fabrique, comment on installe quelqu'un au pouvoir et comment on fait en sorte que lui n'y arrive pas. Et donc du coup, ce film-là, à mon avis, il y a deux niveaux de lecture. Il y a effectivement le personnage, mais aussi la fabrication du pouvoir, je crois.
Et rappelez-vous qu'on ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord ? À partir de ce soir. Mmh. Collez-vous le bien dans la tête, parce que ça va vous donner du de la respiration. Et sinon, ben, on aura bien travaillé, et puis voilà.
Voilà, c'était Gilles Perret, le réalisateur de L'Insoumis, dans les salles depuis le 21 février. Alors seulement dans certaines salles, parce que certains cinémas ont décidé de le déprogrammer. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas de votre cinéma.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
C'est une dentelle aux fuseaux flamandes de la fin du XVIIe siècle. Elle est très rare et très précieuse. Je l'ai préservée à Anvers pendant la guerre. Depuis, j'attendais le bon moment pour la mettre en valeur.
Nous sommes maintenant dans la haute couture des années 50.
Exactement. Fin des années 50, début 60, hein, c'est pas tout à fait précisé. Alors Phantom Thread est un film atypique qui n'est jamais ce qu'il a l'air d'être, qui prend à la rebrousse-poil le sujet dans lequel il s'inscrit et détourne les thèmes abordés pour s'engouffrer dans des circonvolutions d'un récit complexe. Alors il ne s'agit pas vraiment d'une œuvre sur la mode, ni d'un film psychologique sur le rapport entre le créateur et sa créature ou sa muse. Enfin, l'ultime lecture serait celui d'un autoportrait du réalisateur à travers le personnage d'Emurge, du couturier de luxe, sorte d'artiste obsessionnel de la perfection. Mais ce serait encore réduire le film dans un champ un peu trop étriqué. Bien sûr, ces aspects sont présents, hein, notamment lorsque le cinéaste filme avec une méticulosité quasi fétichiste la confection d'une robe, mais Phantom Thread est beaucoup plus retors que son seul postulat laisse à penser. Alors l'histoire se déroule à Londres à la fin des années 50. Le couturier Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril sont les génies de la mode anglaise. Ils habillent tout le gratin en vogue des stars de ciné aux familles royales. Alors l'idée est de mettre en valeur ces femmes du monde, de gommer les imperfections de leur corps et de leur visage grâce à ces robes. Alors célibataire endurci, ayant réglé sa vie au millimètre près, ritualisant ses journées avec une précision quasi pathologique, Woodcock va néanmoins rencontrer Alma, qui va prendre une place centrale dans sa vie. Cet amour va bouleverser son existence. Alors la première rencontre, hein, assez espiègle et sensuelle entre Woodcock et Alma, alors que celle-ci est serveuse dans un restaurant, est un grand moment de cinéma pur, porté par le jeu juste parfait des deux comédiens. L'émotion secrète que procure cette scène est à l'image de tout le film, à la fois drôle, émouvant et complexe. Alors à la première impression, on est tenté de dire que Anderson rend hommage à l'esthétisme baroque d'un Visconti, référence écrasante et trop évidente, et partiellement fausse. Alors la mise en scène est certes d'une élégance maniaque, arborant une virtuosité technique jusque dans les moindres détails, mais elle sait se faire discrète, évitant ainsi un formalisme tape à l'œil. Paul Thomas Anderson ne filme pas de grandes scènes impressionnantes, ne s'attarde pas sur la foule, ne promène pas une caméra complaisante dans des décors clinquants. Même les robes n'ont rien de particulièrement attirant au premier regard. Toute l'action est au contraire resserrée sur une poignée de personnages, à commencer par les deux amants, mais aussi la sœur de Woodcock, Cyril, personnalité énigmatique tout droit sortie d'un film d'Hitchcock. Alors ce personnage central, un peu le cœur névralgique du récit, est magnifique, évoquant la gouvernante dans Rebecca. Cyril canalise les névroses de Woodcock, sans elle tout peut s'écrouler, car la froideur et l'assurance de son frère ne sont que des façades prêtes à s'effriter. Elle veut le protéger d'une passion déstabilisante, tout en restant bienveillante envers Alma.
Eh bien, si tu veux en faire un fantôme, et comme ça te chante, mais je t'en prie, ne la laisse pas attendre de mon vouloir. Je l'apprécie énormément.
Oh, tu l'apprécies énormément, vraiment. Eh bien, tout c'est clair.
Non, ne t'en prends pas. Moi, je ne veux pas de ton orage sur ma tête.
Oh, tais-toi, je t'en prie.
Tu devrais te taire toi-même. Ne te bats pas contre moi, tu n'en sortirais pas vivant. Je te mettrai à mort et c'est toi qu'on ramasserait en mille morceaux. Tu en es conscient ?
C'est toujours étrange quand on entend les voix françaises et qu'on a vu le film en VO, on a l'impression de ne pas entendre le même film. Enfin, c'est toujours curieux. Alors la beauté plastique, hein, de Phantom Thread tire vers une sobriété inattendue, illustrant à merveille une passion amoureuse plus singulière que dévorante. Alors davantage construite sur un pacte ou un arrangement, l'intelligence d'Anderson est d'avoir choisi une actrice inconnue pour incarner Alma, la luxembourgeoise Vicky Krieps, aperçue récemment dans le jeune Karl Marx. Elle est absolument splendide. Alors elle incarne à merveille cette femme insoumise, revêche, mais profondément amoureuse, amoureuse qui ne veut pas se laisser dévorer par le comportement parfois tyrannique et froid de son homme. Évidemment, interprété par un Daniel Day-Lewis impérial qui parvient à faire exister le personnage avant sa performance d'acteur. On voit vraiment qu'il est un couturier. D'ailleurs, je crois qu'il s'est entraîné pendant des mois et des mois.
Acteur studio.
Oui. Bon, voilà. Mais c'est pas dérangeant en fait. Hein. Alors que parfois, on peut se dire qu'il peut en faire trop. Alors et puis on peut en profiter parce que c'est son dernier rôle apparemment. Donc voilà. Alors Alma lira jusqu'au bout hein, de sa passion, quitte à passer par une stratégie démentielle, secret interne d'une œuvre foisonnante et déchirante, sans doute la plus accomplie d'un auteur qui s'élève à des hauteurs insoupçonnées. Alors il délivre à sa manière, on va dire, l'un des twists les plus fous de l'histoire du cinéma, on y pense après, rapprochant d'un coup son film des plus grands films d'amour transgressif de L'Empire des Sens à Crash de Cronenberg. Mais étrangement, et ce n'est pas un mince compliment, Phantom Thread évoque aussi, par des aspects tant formels que narratif, un autre Cronenberg, le génial Faux-Semblant, en moins sombre, en moins déprimant, parce que finalement, Phantom Thread finit sur une sorte de happy end. Voilà, en fait, c'est une love story assez insolite et insolente, quelque chose de vraiment très, très particulier et, à mon avis, le meilleur film de son auteur.
Et c'est en salle depuis le 14 février, c'était le seul film finalement qui était sorti cette semaine-là. Tous les autres, eh bien, c'était des films sortis le 21 février. Alors, dernier film pour Daniel Day-Lewis et premier film d'un réalisateur islandais, celui de Linur Palmason. On va en parler tout de suite parce que je l'ai adoré.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Il en va des films islandais comme des films iraniens. On y trouve l'expression d'un cinéma qui se singularise. La preuve avec Winter Brothers, long métrage étonnant entre comédie, drame et film expérimental d'un cinéaste islandais, Linur Palmason, dont c'est le premier film. Alors, mais l'homme est avant tout artiste plasticien, hein, ce qui explique qu'il n'a pas perdu trop de temps derrière la caméra jusqu'à maintenant, et pas plus derrière un scénario, car celui de Winter Brothers tient à peu de choses. Emil est un jeune homme plutôt atypique qui vit et travaille avec son frère dans une carrière de calcaire au Danemark, qu'on imagine alors perdu, vraiment au milieu de nulle part. Il ne tient pas qu'à buriner la roche, mais vend également à ses collègues mineurs l'alcool frelaté qu'il fabrique avec les produits qu'il vole à la carrière. Les relations changent lorsque le torboyau préparé par Emile est accusé d'avoir empoisonné l'un d'entre eux. L'immersion dans Winter Brothers ne s'oublie pas. Hein. Entrer dans un film, c'est franchir un seuil, une frontière qui sépare l'objet filmé, l'histoire qu'on va nous raconter, du réel. Une introduction qui fait de nous un spectateur. Linur Palmason a soigné cette introduction, nous immergeant dans le quotidien de mineurs, donc quelque chose finalement de très concret, en privilégiant une image graphique presque abstraite, à savoir le contraste entre des lampes et l'obscurité d'une mine. À la dimension de l'image, il ajoute ensuite le son. Alors là, c'est malheureusement extrait de la bande-annonce, c'est très court, mais effectivement, ça prend un peu plus de temps, mais il y a une espèce de changement qui arrive, qui est vraiment surprenant et très beau. Si l'entrée de Winter Brothers donc est captivante, la suite l'est tout autant, car quand les mineurs sortent de l'obscurité, c'est pour se retrouver le visage maculé d'une pâte blanchâtre. Linur Palmason aime jouer des contrastes, celui des décors. Le réalisateur avoue même qu'il a écrit son film pour un endroit précis, celui qu'il a choisi. On saisit donc le contraste entre le travail sous terre dans les galeries et le travail à l'air libre au milieu des machines géantes. Le contraste même entre cette usine dont on a du mal à connaître les contours et la minuscule maison d'Emile, qui est une sorte de baraque en préfabriqué. Le contraste se joue aussi entre les deux frères. L'un est plutôt gringalet quand l'autre est athlétique. L'un est plutôt farceur quand l'autre se voit accusé d'être austère. Et l'un rêve d'une fille quand l'autre couche avec. Les nuances entre désir et réalité ne vont jamais cesser de traverser Winter Brothers, si bien que même l'image est parfois trompeuse. Le réalisateur s'amuse à contaminer ce quotidien de mineur avec des images fantasmagoriques ou graphiques, comme ce long travelling dans une forêt recouverte d'une fine couche de neige. Il va aussi parfois stopper son récit pour s'apesantir sur un visage, un corps, une posture, ou rythmer son récit par une longue baston avec un protagoniste nu comme un verre. Winter Brothers peut être vu comme une comédie noire ou un drame expérimental où le burlesque, la drôlerie, la bizarrerie comme la tension sont des ingrédients emprisonnés dans quelque chose chose de plus fort, une forme singulière dominée par le contraste et une recherche d'abstraction. Alors avec ça, le réalisateur, qui n'est pas seulement un esthète, hein, est suffisamment roublard pour tenir le spectateur, avec des pistes tellement voyantes qu'elles finissent par disparaître d'elles-mêmes. On en finit presque par oublier cette histoire de mixture frelatée. Il serait faux de dire que Winter Brothers tient surtout à sa forme, tant les personnages qui s'y déploient ont leur importance. Emile notamment, hein, le personnage principal, est évidemment captivant, comme le sont les autres, qui ne sont bien souvent que des gueules enfarinées par le calcaire extrait des sols. A noter que le personnage, l'acteur qui joue Emile, a remporté le prix du meilleur acteur à Locarno, et puis le réalisateur, lui, a remporté le prix du meilleur film européen dans cette même compétition. Autant dire que je vous recommande ce Winter Brothers qui sera malheureusement présent dans beaucoup moins de salles que le Guillermo del Toro, hein, ça c'est sûr.
C'est évident.
Mais c'est un plan B, voilà, c'est un plan B pour certaines salles de cinéma.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, nous n'aurons pas d'interview dans cette émission, mais un blind test. Et puis, on vous parlera de Lady Bird et puis d'un autre film.
Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot.
Et peut-être qu'on parlera aussi des oiseaux.
Des oiseaux d'Hitchcock.
En version restaurée.